Voilà, je pense que nous allons reprendre, si vous voulez bien. Alors, nous allons maintenant pénétrer un monde tout à fait étrange. Frères et sœurs, il faut reprendre, autrement on ne pourra pas aller jusqu'au bout, d'accord ? Et j'aimerais vous inviter à lire dans la lettre aux Galates, au chapitre 1er, et au verset 6, c'est un passage que les Mormons ne connaissent pas. Curieusement, ils ne connaissent pas ce passage. Et vous pourriez le noter, et lorsque des missionnaires mormons vous abordent, utilisez ce passage de Galates, chapitre 1er, verset 6. Paul dira « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message. » Comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre, mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un message différent que celui que nous vous avions annoncé, qu'il soit maudit. Je vous l'ai déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Nous avons acheté ça lors de notre séjour à Salt Lake City. Pour eux, la parole de Dieu, c'est la Bible, le Livre de Mormon, Doctrine et Alliance et Perles de Grand Prix. Donc pour le moment, ça n'existe qu'en anglais, mais malheureusement, avec les moyens que possèdent les Mormons, je pense qu'un peu partout dans le monde, il y aura à la disposition des saints des derniers jours, c'est comme ça qu'ils s'appellent, il y aura donc le canon des Écritures qui sera réuni à un seul et même volume. Donc ça, c'est quand même très grave d'avoir falsifié ainsi la parole de Dieu. Alors, nous allons voir un petit peu à travers une vidéo. Elle est en anglais, mais on va faire le commentaire en français au fur et à mesure, bien que je ne maîtrise pas du tout l'anglais, mais je connais la vidéo. Elle a été produite par Ed Decker. Ed Decker qui, comment dirais-je, est un frère qui est aux États-Unis. Certains ont connu des membres de la famille dans votre communauté. Ed Decker, qui fait un travail extraordinaire parmi les Mormons et qui a créé l'association Les Saints Vivants en Jésus, par opposition avec les Saints des Derniers Jours, Les Saints Vivants en Jésus. Et l'organisation de Ed produit pas mal de vidéos, de livres, très très bien. Nous sommes en contact d'ailleurs avec ce frère. Donc c'est Ed Decker qui a produit cette vidéo que nous avons réduite à peu près à 10-12 minutes. Ce sont des films d'une heure environ et donc nous essayons de condenser pour en dire le plus possible. Et à travers cette animation, vous allez voir un petit peu, un peu beaucoup même, la doctrine mormone. Au début, on ne comprend pas très bien, puis vous allez voir qu'elle est très bien exposée, cette doctrine, à travers cette animation que notre frère a fait. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais mentionner ceci, c'est que Joseph Smith a reçu donc la visite de messagers célestes. Donc là, c'est tiré du Livre de Mormon. Le Livre de Mormon est un volume d'écriture sainte comparable à la Bible, pas moins. Il est le compte rendu des relations de Dieu avec les anciens habitants de l'Amérique et contient la plénitude de l'Évangile éternel. À propos de ces annales, Joseph Smith, le prophète, a dit « Je dis aux frères que le Livre de Mormon est le plus correct de tous les livres de la terre et la clé de voûte de notre religion et qu'un homme se rapprocherait davantage de Dieu en suivant les préceptes de ce livre que par n'importe quel autre livre. » Donc la Bible est mise de côté, hein. Faut pouvoir un peu traduire, comprendre. Ceux qui obtiendront ce témoignage divin du Saint-Esprit sauront par le même pouvoir que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, que Joseph Smith est son révélateur et son prophète en ces derniers jours, et que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est le royaume du Seigneur établi de nouveau sur la terre pour préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Et alors les Mormons, lorsqu'ils vous visitent à la maison, lorsqu'il vous aborde dans la rue, il vous invite à lire dans le livre de Moroni, donc ce livre de Mormon, dans le livre de Moroni, au chapitre 10 et au verset 4. Et là, il vous lance un défi. Écoutez bien, Et lorsque vous recevrez ces choses, ce que vous disent les missionnaires, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies. Et si vous demandez d'un cœur sincère, avec une intention réelle, et ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Quel blasphème! Vous voyez comme c'est déguisé cela. Parce que si vous demandez d'un cœur sincère, vous trouvez. Donc si vous ne trouvez pas, c'est que vous n'êtes pas sincère. C'est ça, hein? Donc déjà, les gens se sentent condamnés en disant, si je n'ai pas reçu la révélation que le livre de Mormon est la parole de Dieu, donc je ne suis pas sincère. C'est un défi. Donc le livre de Mormon, nous allons voir comment il a été écrit à travers l'animation, mais je voudrais le résumer avant. Voilà que l'ange, plutôt le prophète Moroni, enterre les plaques dans la colline Cumorah, dans l'état de New York, il y a des siècles en arrière. Il y a eu une grande bataille, nous allons le voir dans l'animation, et ces plaques d'or, écrites en égyptien ancien, allaient être découvertes par Joseph Smith beaucoup plus tard. Et Joseph Smith allait les traduire par le pouvoir de Dieu, parce que égyptien ancien, aucun égyptologue n'a jamais pu traduire ces hiéroglyphes tracés par Smith. Personne, il n'y a que lui qui a pu comprendre. Comment a-t-il traduit ces plaques d'or pour que cela donne le livre de Mormon? Eh bien, il était chez lui, avec un secrétaire à côté qui s'appelle Oliver Cowdery, et Smith, les Mormons ne le disent pas ça, mais c'est comme ça que ça s'est passé, il a mis sa tête dans un chapeau noir, et au fur et à mesure qu'un texte en égyptien ancien, une ligne passait, il y avait la traduction en anglais en dessous. Et Smith, la tête dans le chapeau noir, lisait en anglais, et Smith et Oliver Cowdery notaient, et ça a donné le livre de Mormon. Ça a été traduit par le pouvoir de Dieu. Mais alors, ce qui est curieux, ce que vous pouvez le noter, cela, c'est qu'il faut dire aux missionnaires, c'est quand même extraordinaire que ce livre, qui est le plus parfait sur la terre, ne parle pas du baptême pour les morts, ne parle pas de la progression éternelle, nous allons voir tout à l'heure ce qu'est la progression éternelle, et ce livre a été rectifié 3992 fois. 3992 fois. Nous avons la preuve, par des photocopies, par des amis chrétiens de Salt Lake City, qu'il a été remanié, il a été tronqué, il a été falsifié. Donc s'il avait été dicté directement de Dieu au prophète, il n'aurait pas eu besoin d'être revu et corrigé. Voilà, on pourrait dire qu'il était une fois un jeune garçon qui s'appelait Joseph Smith, qui cherchait la vérité et qui s'est promené dans les bois et le père et le fils lui sont apparus. Et Smith a demandé, où vais-je, vers quelle église vais-je me tourner? Et le père et le fils lui auraient dit, mais c'est certainement pas Dieu qui a pu lui dire ça, mais plutôt l'ennemi de nos âmes. Et donc Dieu lui aurait dit, d'après ce qu'ils disent les Mormons, ne te joins à aucune de ces églises. Elles sont toutes en abomination à mes yeux. C'est pas gentil, ça, hein? Tous leurs conducteurs sont corrompus. Et tous les membres m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Alors Smith, il a dit, bon, il n'y a aucune église qui est valable. Et Dieu lui aurait dit, attends, toi, tu vas fonder la seule et véritable église sur la terre. Bien évidemment. Donc l'église a été restaurée et les Mormons insistent beaucoup sur le fait qu'il y a eu la restauration de l'église. L'église était perdue, corrompue, mais heureusement que l'ange Moroni est venu. Alors dites-leur, comment se fait-il que la parole de Dieu nous dit clairement que nul les ravira de la main du Seigneur et que même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. L'église de Jésus-Christ est une église triomphante. Malgré les schismes, malgré les difficultés, à travers les siècles, elle a gardé la route. Et nous faisons partie de cette Église. Que Dieu soit loué. C'est l'Ecclésia du Nouveau Testament. C'est l'épouse de Jésus. Et ce n'est pas une organisation comme celle des témoins, ni une Église restaurée comme le prétendent les Mormons. Donc nous allons voir cette animation maintenant. J'aurai besoin du micro. Est-ce qu'on peut le détacher de là ? Est-ce qu'on peut... Je pourrais peut-être m'asseoir là, si nous avons assez de fil. Donc, cette vidéo est produite par Ed Decker et le titre est Godmakers, c'est-à-dire les fabricants de Dieu, les faiseurs de Dieu, ceux qui fabriquent des dieux. Et vous allez comprendre pourquoi cette vidéo porte ce nom. A ce nom. Voilà, c'est bon, on peut le lancer. Donc, on laissera le commentaire en anglais tout doucement, frère, et nous allons donner les pensées chaque fois. Notez des questions si vous avez. Un peu de son. Oui. Le commentateur dit, vu de l'extérieur, c'est merveilleux. C'est un temple mormon, ça. Vu de l'extérieur, c'est merveilleux. Chez les mormons, tout est beau. Vu de l'extérieur, la chorale. Lorsqu'ils ont pris ma femme, et j'ai failli me suicider, dit cet homme. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, je n'ai pas réussi ce suicide. Parce que les mormons divisent les couples, ils divisent les familles. Là, vous avez le bâtiment de Salt Lake City, 27 étages, où sont gérés les biens de l'Église. Donc, 27 étages où il y a des ordinateurs, des comptables et tout. Tout est géré dans ce bâtiment majestueux. C'est pas l'ange Moroni qui nous fait des ennuis, quand même. J'espère qu'on va arriver. Ah oui, voilà, ça vient. Donc, vous avez entendu la traduction. C'est ce qu'il dit, en tout cas, cet homme. Donc l'apparence, les mormons ont actuellement 142 temples dans le monde en activité. 142 temples, c'est pas une chapelle le temple. On va parler de la différence. Donc je vous ai dit la traduction tout à l'heure. Peut-être un peu moins fort, frère, un petit peu, voilà, très bien. Donc ça je vous ai donné, après il y a l'homme qui a fait se suicider parce que sa famille a été brisée, hein, brisée. On ne sait pas pourquoi, mais ils lui ont pris sa famille et certainement l'épouse, elle a dû être remariée à un mormon plus fidèle que celui-ci, qui maintenant est chrétien. Oui, je remercie le Seigneur, je n'ai pas réussi. Donc le bâtiment, qui est dans le cœur de Salt Lake même, les mormons sont très très bien organisés. Et dans Utah, la plupart... des localités leur appartiennent. Le temple de Salt Lake, donc on va le voir beaucoup mieux tout à l'heure, un temple magnifique construit de granit, et il a fallu 40 ans pour le construire. Chaque début du mois de juillet, les mormons fêtent l'arrivée des pionniers dans la vallée. C'est une grande fête, ils viennent de partout. Et là, vous avez le char de Brigham Young University, parce qu'ils ont une université avec 25 000 étudiants à Salt Lake City. Alors, vous voyez, ils reproduisent les calèches de l'époque. Donc, il ne faut pas confondre une chapelle, voilà, une chapelle, là, avec le temple. On va voir la différence. Vous les voyez, ces missionnaires, dans les rues. Ils sont habillés partout dans le monde entier. Un peu la même chose, et ils donnent 2 ans de leur vie. Le centre de missionnaires où sont formés, voilà, l'université, donc 25 000 étudiants, c'est quand même énorme. Donc oui, ils enseignent aussi avec la parole de Dieu, Brigham Young Université. Les mormons sont beaucoup pour les études et pour la science. Et cette jeune femme est chrétienne maintenant et elle dit dans son témoignage que dans sa famille ça n'allait pas, il y avait des problèmes et adolescente elle avait été invitée à se joindre à l'église mormone et elle avait été émerveillée, abasourdie de voir le programme que les mormons ont pour la jeunesse parce que les mormons organisent des bals, ils ne sont pas contre le bal. Ils disent qu'il vaut mieux que les jeunes dansent dans l'église plutôt que d'aller ailleurs. Voilà les chapelles. Il y en a une au boulevard de Cimier, un très beau bâtiment aussi. Il y en a un peu partout, mais la chapelle, il y a des réunions, il y a des offices le dimanche. C'est différent des temples où les temples sont des bâtiments énormes. Voilà un temple. En Europe, nous en avons 2 en Angleterre, nous en avons en Allemagne et il y en a un en Suisse également. Le temple de Salt Lake, avec la statue de Brigham Young, successeur de Joseph Smith. Voilà, là, vous entrez maintenant dans le temple. C'est interdit aux non-mormons. Ed Decker, je ne sais pas comment il a fait à pénétrer. Dans ce temple, les mariages sont scellés pour l'éternité. Un tout petit peu plus de sang, s'il vous plaît, un tout petit peu, un chouïa. Merci. Les mormons croient que dans l'éternité, les couples seront réunis à nouveau et que des couples auront des relations sexuelles dans le ciel et que la femme enfantera des enfants esprits pour peupler des planètes. Voilà le chargé des relations extérieures de l'Église mormone qui dit oui, la femme deviendra une déesse et l'homme, le mormon, pourra devenir un dieu et Dieu lui donnera une planète. Il le croit vraiment, il le croit. Il le croit vraiment. Oui, éventuellement, l'homme pourra devenir un dieu. Voilà l'inauguration d'un temple aux États-Unis. Alors, quelqu'un pourrait dire, mais vous avez dit qu'on ne pouvait pas entrer dans le temple. C'est l'inauguration. Le temple n'a pas encore été consacré. Le drapeau est en berne. Et des milliers de mormons et de non-mormons viennent le visiter. Là, tout le monde peut venir, mais une fois qu'il aura été consacré, seuls les mormons dignes pourront entrer dans le temple. Voilà une chrétienne qui interroge cet homme. Comment pensez-vous que Dieu est ? Donc, il hésite un peu et il dit « Dieu est comme vous et moi, c'est-à-dire un être fait de chair et d'os. » Voilà ce que pensent les mormons. Parce qu'ils croient que Dieu, avant d'être Dieu, était un homme qui a mis en pratique la progression éternelle et il est devenu Dieu. Tout comme les mormons deviendront des dieux. Ça nous fait penser au Jardin d'Éden. Hein. Vous serez semblables à des dieux. Vous serez semblable à Dieu. Voilà une dame qui est chrétienne maintenant. Elle a été filmée aux États-Unis. Et elle était mormone. Et de toute petite, elle rêvait d'être une déesse, puisque l'Église enseignait qu'elle serait une déesse. Voilà toujours l'intérieur du temple. Des magnifiques temples, très bien organisés, ornementés. Et elle dit dans son témoignage que De toute jeune, elle rêvait d'être toujours enceinte dans l'éternité pour peupler la planète que le Seigneur lui donnerait. Oui, là, il parle du temple, des fonctions dans le temple. Nous allons voir tout à l'heure les fonctions qui se passent dans le temple. Donc, c'est incroyable qu'une femme intelligente comme cela et sensée croyait que après la mort, elle dirigerait une planète et qu'elle serait continuellement enceinte pour peupler la planète. Une aberration pareille, les mormons y croient. Et chez eux, il y a des gens intelligents. Vous avez des sénateurs, vous avez des savants, vous avez des astronautes, vous avez des gouverneurs. Voilà l'animation qui explique bien la doctrine mormone. Dieu a créé l'univers. Ensuite, la planète Kolob a été créée. Les mormons pensent que le paradis de Joseph Smith, c'est la planète Kolob. Les mormons croient que Dieu a une femme et même plusieurs femmes et qu'il a des relations sexuelles avec ces femmes. Et une femme a enfanté Elohim. On se croirait que les Raéliens, voyez-vous. Et Elohim a été enfanté et il sera chargé d'être enseigné par le Père sur la mission qui lui sera confiée. Il a écouté les enseignements du Père. Le Père l'a enseigné. Bon, il n'a pas l'air tellement intéressé parce que le Dieu des Mormons dit, oui, il a l'air de s'ennuyer. Alors, Dieu va lui parler de la progression éternelle après la mort. L'homme est en direction vers l'éternité pour devenir un dieu et une femme des déesses et devenir Dieu comme lui-même est Dieu. Dans le ciel, c'est un véritable harem. Dieu a beaucoup, beaucoup de femmes. Il y a beaucoup d'enfants esprits qui sont enfantés chaque jour pour peupler toutes ces planètes. Alors ensuite, donc ça c'est la création, Elohim est élevé avec beaucoup de tendresse, une véritable nurserie, voyez-vous, toutes ces femmes, elles enfantent continuellement, et les mormons croient qu'il y a beaucoup de dieux, il y a le conseil de Dieu qui un jour s'est réuni, pour eux le Dieu de la Bible, c'est un dieu parmi d'autres dieux, et les dieux ont été réunis pour décider qui Dieu allait envoyer sur la terre, Jésus, le mormon Jésus, ou
Lucifer. Alors Dieu avait créé la planète Terre. Ensuite, il y a eu la chute, en Éden. Pour les Mormons, la chute a été une bénédiction. On s'en serait passé, hein. Ils pensent que c'était une bénédiction. Lucifer s'est levé et il a dit, moi, j'irai sur la terre des hommes pour sauver l'humanité. Et le Mormon Jésus ne savait pas que dire. Et alors Lucifer s'est mis en colère. Et les dieux ont été invités à procéder à un vote, l'un ou l'autre. Alors, ils ont réfléchi et ils ont voté, pas bulletin secret, mais à main levée. Qui allons-nous envoyer sur la terre pour racheter l'humanité? Le Mormon Jésus a été désigné. Alors Lucifer est devenu est en colère, il est entré en colère et il est devenu Satan. Et il a entraîné avec lui un tiers des créatures célestes. Ils sont devenus les démons, les femmes, les diablesses. Et voilà, les femmes de diablesse. Et les démons ont été envoyés sur la terre dans des corps de chair. Les démons ont été précipités sur la terre. Et ensuite, il y en a qui ont gardé la peau blanche et d'autres qui ont eu la peau sombre. Alors ceux qui ont eu la peau sombre, cela allait engendrer les Noirs, qui étaient maudits. Pour les Mormons, les Noirs, c'est la race de Caïn qui est maudite. Et pendant longtemps, les Mormons noirs ne pouvaient pas entrer dans les temples. Mais ceux qui ont gardé la peau blanche allaient devenir de bons Américains, de bons Mormons, et eux, ils allaient avoir la bénédiction de Dieu et entrer dans les temples. Jusqu'en 1978, les Noirs n'avaient aucun accès dans la prêtrise chez les Mormons. Et en 1978, un prophète a eu la révélation et la malédiction a été enlevée de dessus les Noirs. Malédiction que les Mormons avaient mis et non pas Dieu. Elohim vient sur la terre. En réalité, c'est Dieu maintenant qui vient. Il va frapper à la porte de la Vierge Marie parce que les Mormons ne pensent pas que Jésus a été enfanté par le Saint-Esprit, comme le dit la Bible, mais ils croient que Jésus a été enfanté suite à des relations sexuelles que Dieu a eues avec la Vierge Marie. Blasphème sur blasphème. Quand Jésus est né, il s'est marié avec Marthe, Marie de Magdala, trois femmes, Marthe, Marie-Madeleine. Ces femmes lui ont donné des enfants parce que Jésus devait assurer sa progéniture. Il savait qu'il allait mourir sur la croix, donc il a voulu assurer sa progéniture et Joseph Smith serait un des descendants de ses enfants, de Jésus. Mort sur la croix et à la résurrection, Jésus n'est pas allé au ciel comme nous le croyons, mais Jésus est allé aux États-Unis visiter les Indiens qui sont restés la bouche bée. Ah, le Christ qui nous visite. Et Jésus allait leur dire, plus tard, un prophète va venir et il vous annoncera la plénitude de l'Évangile. Il annonçait la venue de Joseph Smith beaucoup plus tard. Vous savez, les Mormons, ils y croient dur, tout ce que je vous dis. Hein. Nous, ça nous fait sourire, mais à un moment donné, il y a eu une grande bataille entre les Néphites et les Lamanites, deux tribus sur la colline de Cumorah. Une grande bataille entre ceux qui avaient la peau bronzée et ceux qui avaient la peau blanche. Et il y a eu 1,5 million de morts sur la colline de Cumorah. Et nous disons aux Mormons, c'est étrange, parce qu'aucun casque n'a été trouvé, aucun javelot, rien. Il y a eu 1,5 million de morts. Mais la simple raison, c'est parce que ce n'est pas vrai, tout simplement. Avant que le dernier des combattants ne meure, Moroni, il a eu le temps d'enterrer les plaques d'or, les annales du peuple, dans la forêt. Il a mis une pierre dessus et ces annales allaient être retrouvées beaucoup plus tard. Par révélation, le prophète allait venir au pied de l'arbre et traduire ces plaques. Mais là, on ne le montre pas avec la tête dans le chapeau noir, voyez-vous. Mais il avait la tête dans le chapeau. Et il devait traduire, paraît-il, ces pages par le pouvoir de Dieu, et cela donnerait le livre de Mormon, le livre le plus parfait sur la terre. Et Smith a commencé comme ça avec quelques personnes seulement, avec le livre de Mormon, en racontant toutes ces histoires. Très peu de monde au début, et maintenant les Mormons comptent 14 millions de membres dans le monde. Donc les Mormons remercient le Seigneur pour la venue de Smith, qui est réellement un prophète. Alors pour eux, la parole de Dieu est la perle de Grand Prix, Doctrine et Alliance, et le livre de Mormon. Mais ils ont oublié la Bible. Ils ont oublié la Bible parce que la Bible est secondaire pour eux. Les Mormons ne doivent pas boire de l'alcool, fumer, pas boire de thé, pas de liqueur, ni du Coca-Cola. Parce que cela les énerve. Ils pratiquent le baptême pour les morts. Ils recherchent les ancêtres. Les mariages sont scellés pour l'éternité. Et au jour du jugement, les Mormons sont convaincus que chacun comparaîtra devant Dieu le Père, devant le Fils et devant Joseph Smith. Et les Mormons disent que sans le certificat de Joseph Smith, on ne peut pas être sauvé. À la pointe de chaque flèche des temples mormons, il y a la statue de l'ange Moroni. Scellement du mariage pour l'éternité, les habits blancs, voyez-vous, avec le tablier, cela a été pris de la franc-maçonnerie, et maintenant c'est la progression éternelle, ils vont vers leur destinée devenir une déesse et un dieu. Les mormons remercient Dieu pour le prophète Joseph Smith, lui qui est mort pour nous, parce qu'il est mort en martyr, ils disent, soi-disant. Il a versé son sang comme Jésus, et il a donné sa vie comme Jésus. En réalité, ils ne le disent pas, mais pour eux, Smith est plus grand que Jésus. Ils ne vous le diront pas, mais ils croient vraiment qu'avec la progression éternelle, ils seront semblables à Jésus. Voilà Ed Decker avec lequel nous sommes en contact. Et Ed Decker a fondé donc un ministère très puissant et un ministère évangélique parmi les Mormons. Et il dit dans ce commentaire-là que lui, il a souffert du mormonisme d'une manière particulière puisque sa famille a été brisée par les Mormons. Les 5 enfants se sont détournés de lui, sa femme également. Et je crois savoir, je ne suis pas sûr, mais je crois savoir que son épouse a été rapidement remariée avec un mormon. Donc il dit que son cœur a été brisé en voyant sa famille brisée par les mormons et il s'est lancé dans ce ministère qui porte énormément de fruits. Voilà le temple de Los Angeles. Il est énorme ce temple. On ne peut pas se rendre compte là, mais il est énorme. Et dans ces temples, seuls les mormons dignes peuvent entrer. Voilà une cérémonie secrète. Vous voyez le grand prêtre habillé de blanc et vous voyez les nouveaux mormons avec ce qu'ils appellent en anglais « garment », le sous-vêtement blanc. Et ils ont le tablier comme la franc-maçonnerie le recommande, parce que Joseph Smith était franc-maçon. Et là, en réalité, ils vont être soumis à une puissance occulte. Dans les temples mormons, il y a une puissance occulte très marquée. Et là, ils vont invoquer le diable. Satan, entends-nous. Parce que les mormons disent qu'à chaque baptême, à chaque revêtement, il y a Satan qui est présent. Et un mormon porte toujours le garment, peut-être moins large que celui que vous voyez, ce sous-vêtement blanc. Mais les mormons et les mormons, nuit et jour, portent toujours le garment parce qu'il est supposé les protéger contre les mauvais esprits. Voilà la femme qui est maintenant placée sous la bénédiction, entre guillemets. Mais en réalité, ils sont mis sous la protection du diable. Donc, il lui dit, sois une bonne mormone, dans l'éternité, tu enfanteras beaucoup d'enfants. Et ensuite, le cerveau, que ton cerveau donne de bonnes pensées. Que tes yeux ne voient rien de mal. On les met sous la puissance du diable. Que tes oreilles n'entendent rien de mal. Que ta bouche ne dise rien de mal. Et ensuite, le grand prêtre va toucher les parties génitales de l'homme pour lui dire de procréer et d'aider sa femme à avoir des relations pour enfanter des enfants esprits. Voyez-vous, toute la femme est mise... Voilà, il touche les parties génitales de l'homme. Puisses-tu être un homme fort. Que ton ventre produise beaucoup d'enfants esprits pour être agréable au prophète.
Sois
un homme fort. Voilà, fort. Enfin, c'est affreux quand on réfléchit, hein. Quand on ne sait pas ça, mais le mormonisme est très dangereux. Le commentateur dit que les mormons sont très riches, c'est vrai. Ils ont des immeubles partout en Utah. Ils possèdent des puits de pétrole. Ils ont des actions dans les banques. Ils ont des actions dans les supermarchés. Ils possèdent des supermarchés. Il y a des maisons d'édition. Ils ont beaucoup de biens immobiliers, beaucoup. Et ils ont aussi des actions dans le Los Angeles Times. Et la chaîne des radios, télévision aussi, des chaînes, des supermarchés, j'ai déjà dit. Tout est géré dans ce grand bâtiment. Les Mormons se développent dans le monde entier. Ils sont présents pratiquement sur tous les continents. Et actuellement, il y a 60 000. L'hôtel Marriott, vous en avez un Cap d'Ail, appartient aux Mormons. Cap d'Ail, 4 étoiles, il y en a à Paris, partout. Tout cela appartient à l'église mormone. Donc, excessivement riche. La seconde église après le Vatican, ce sont les Mormons qui sont le plus riches au monde, après le Vatican. Malgré les apparences dans la vallée du lac Salé, malgré tout ce que les Mormons disent, il y a des suicides, la drogue, beaucoup de dépravations. Oui, c'est triste. Voilà une Mormone qui est interrogée. Si on vous demandait, préférez-vous mourir ou quitter l'Église? Que choisirez-vous? Quitter l'Église? Je préférerais mourir. Bonjour, bonjour madame. Connaissez-vous l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours? Ouf! Quand même inquiétant, hein? Je dirais qu'à la limite, ils sont plus dangereux que les témoins encore. Je me mets là, comme ça je vois tout le monde. Ils sont plus dangereux parce qu'il y a une puissance occulte et ils font moins de bruit. On les voit moins, mais ils progressent. Puisque, regardez, en France, je le disais tout à l'heure, ils sont environ 40 000. Ce n'est pas énorme, mais ils continuent de progresser. Les témoins sont beaucoup plus nombreux, c'est vrai. Mais dans le monde, il y a le double par rapport aux témoins de Jéhovah. 8 millions de témoins de Jéhovah, ce qui n'est pas énorme, 14 millions de mormons, et ils ont 60 000 missionnaires, ce qui est quand même énorme. 60 000 jeunes, lorsque un jeune rentre, un autre part. Les jeunes filles donnent 18 mois pour l'Église et les jeunes gens 2 ans. Et ce n'est pas l'Église mormone qui paye les frais de la mission, ce sont les familles, les amis de la paroisse qui payent. Ça coûte cher pour envoyer un missionnaire. Il y a le loyer, l'assurance, la nourriture, tout, tout, tout. Ce n'est pas l'Église qui paye, l'Église paye le billet d'avion, mais ce sont les mormons. Quelle leçon! Quelle leçon encore! Je vous assure, je la connais la vidéo, mais chaque fois que je la passe, ça me fait mal, quoi. Et il y a un défi. On est prêt à le relever? J'ai rien entendu. À Nice? Alors écoutez, à Nice, j'y vais de temps en temps là-bas. Ils m'invitent même pour les barbecues, voyez-vous. Oui. Ben, ils ne savent pas tout, hein. Ils savent que je suis évangélique, mais... à Nice, c'est difficile. Je ne peux pas dire. Le bâtiment, à 3 niveaux, le bâtiment est important. On le voit, mais il y a 2 niveaux en dessous. Et on peut mettre 500 personnes. mais ils ont des parois mobiles. Donc, lorsque nous y allons, rarement, pas le temps à perdre, mais il nous arrive d'y aller, je sais pas, moi, c'est pas énorme l'auditoire. Hein. 120, 150 peut-être. C'est difficile. Parce que les Mormons, ça bouge continuellement. Les témoins de Jéhovah sont obligés d'être là. Donc vous allez à une réunion, vous retournez à une autre réunion, il y a à peu près le même auditoire. Chez les Mormons, on les incite à aller aux réunions, mais bon, c'est plus relax, quoi, si vous voulez. C'est plus cool.
Il y a des gens qui viennent en car.
Oui.
Ils viennent de loin.
Ils reçoivent beaucoup de visiteurs, oui. Moi, ce qui m'impressionne, c'est cette jeunesse. Cette belle jeunesse qu'ils ont, il y a de belles âmes chez ces jeunes. Vous les voyez, ils respectent la chasteté jusqu'au mariage. Et ils sont fait de l'impression d'être purs. Ils ont une belle jeunesse et puis c'est pourri par l'enseignement, quoi. Je veux dire, c'est pourri, quoi. La doctrine est vraiment. Mais bon, que Dieu soit béni. Il y en a qui sont gagnés quand même. Et j'étais allé à Salt Lake il y a 25 ans. Il y avait deux églises évangéliques à ce moment-là. Deux. Et là, nous y sommes retournés il y a 3 ans. Nous avons découvert 5 assemblées de Dieu et plusieurs églises baptistes et des églises évangéliques. Oui. Donc il y a un progrès qui est fait. Un progrès qui est fait. Parce que là-bas, tout est mormon. Un mormon qui a un job, s'il le quitte, s'il quitte l'église, il perd son job. Parce que souvent, le patron est mormon. Pas toujours, mais 2 fois sur 10. Et alors, dans les restaurants, sans se donner à cœur joie, parce que pour témoigner, on leur demandait « Are you Mormon ?» Sure. Alors, elle était mormone, et alors là, on parlait du Seigneur. Et beaucoup, les employés sont tous mormons. Bon, j'ai assez parlé. Une question.
On peut dire que c'est inspiré de l'écriture grecque, avec les dieux, tout ça, ou quoi ? Il y a pas mal d'influence.
Peut-être. Oui, peut-être. Pourquoi pas ? Oui, oui, c'est possible. Ils se sont. Mais Smith avait beaucoup d'imagination pour inventer tout ça. Hein. 1920, et dans le bosquet sacré, il a eu la révélation du Père et du Fils, et il avait 14 ans. Oh, j'ai un film, je ne veux pas vous le passer parce que ça prend du temps, mais ils font des films extraordinaires, les Mormons. C'est fait, ils ont des studios de production. Mais quelqu'un qui connaît pas la Bible tombe dans le panneau. Hein. Vous voyez ce jeune de 14 ans dans les bois, cherche la vérité, puis vous le voyez, le père et le fils qui apparaissent. C'est très bien fait. Hein. Il y a même des films qui sont entièrement bibliques. Entièrement bibliques. Et à la fin, si vous ne possédez pas le livre de Mormon, nous pouvons vous l'envoyer gratuitement. Vous voyez, oui. Nous allons voir dans la deuxième vidéo, nous parlerons de l'influence occulte. Vous savez, lorsqu'on a pris la photo là à Los Angeles, donc on peut pas entrer dans ce temple, je vous l'ai déjà dit, mais il y a à côté de chaque temple le Visitor Center, donc le centre pour les visiteurs. Et là, on peut aller, vous avez des jeunes filles, hôtesses, qui vous accueillent. Alors elles sont choisies et vous allez en direction de l'hôtesse qui porte le drapeau français. Les Italiens vont vers, vous voyez, c'est très très bien organisé. Moi, je me suis dirigé vers une Polynésienne qui parlait français. Et alors, bon, on a pu témoigner en français, tout ça. Mais une mormone nous disait que lorsqu'elle entre dans le temple, elle dit la paix que je ressens. C'est une paix qui vient du diable, hein. Ça ne vient pas de Dieu. Oh, c'est bon, vous savez, je m'assois là, on est loin du monde, on ressent cette paix. Et puis elle disait dans l'article, ma mère est venue s'asseoir à côté de moi et j'ai parlé avec elle, mais le problème c'est que la mère était morte. Donc ils ont des contacts avec les défunts. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les mormons qui le disent. Hein. Donc ça fait quand même un peu froid dans le dos. Je veux dire que lorsque vous témoignez à des mormons, demandez au Seigneur de vous garder. De vraiment vous recouvrir de son précieux sang. On est toujours sous l'aspersion du sang de Jésus, hein, pas seulement quand on témoigne aux Mormons. Mais faites très attention, ils portent ce garment, hein, ils ont toujours ce sous-vêtement sur eux, donc on ne craint pas. Mais vous prenez autorité et vous témoignez au nom de Jésus.
C'est quoi à toutes les généalogies des morts qui gardent ? Parce que c'est vrai qu'ils ont tout le monde...
Ah oui, oui. Donc, ils se basent sur 1 Corinthiens. Vous savez, sur le passage où Paul dit « Et que feront ceux qui sont baptisés pour les morts ?» Ils ont pris ce verset hors du contexte. C'est impressionnant. Et j'ai le regret de vous dire, amis chrétiens, que vos noms sont là-bas. Vos noms sont dans la caverne qui est à 20 km de Salt Lake, caverne de granit. Ils ont 3 milliards de noms sur les microfilms. 3 milliards. Et vos noms, ils sont, le mien aussi. Et chaque jour, on va le voir dans la deuxième vidéo, des mormons, le matin, bénévolement, avant d'aller au travail, vont dans les temples se faire baptiser pour les membres de leur famille qui ne sont pas mormons, et pour vous et pour moi. Partout dans le monde, partout dans le monde, ils se font baptiser parce qu'ils disent que le jour où vous comparaîtrez devant Smith, alors il pourra vous dire « Quelqu'un a été baptisé pour toi, acceptes-tu le véritable évangile ?» Oh, j'espère que vous direz non, hein. Bon. Mais eux le font avec sincérité. Ça leur coûte une fortune, hein. Aux mormons, ça leur coûte une fortune. Mais alors posez-vous la question, frères et sœurs, pourquoi l'État français a-t-il laissé les mormons s'emparer de l'état civil de toute la France pour aller là-bas?
Est-ce que c'est gratuit?
Non, posez-vous bien la question. Ils auraient pu nous demander. Ils auraient pu nous demander.
Quand ça s'est passé, ça?
Il y a 10 ans.
Alors, nous, ce que nous pensons, mais on n'est pas sûr, hein. Quand on n'est pas sûr, on n'affirme pas. Pensons qu'il y a une histoire d'argent. Parce que la franc-maçonnerie est très liée avec l'Église mormone. Sur les temples mormons, nous avons filmé des signes maçonniques, avec l'œil, avec le compas, la lune, les étoiles. Ça, c'est des signes maçonniques qui sont sur les temples mormons. Donc, il est possible que la franc-maçonnerie ait traité avec eux et que le gouvernement ait fermé les yeux. Moi, je ne vois pas d'autre explication. Comment se fait-il que nos noms sont dans une secte et que des gens se font baptiser pour nous? Si vous avez d'autres réponses, moi je veux bien le croire. Mais j'en vois pas d'autres.
Il n'y a pas que les noms d'état civil, il y a les registres de baptême.
Les registres de baptême.
Donc, c'est pas oui. L'État.
Hein. Il y a quand même l'État qui ferme les yeux. Hein.
Il n'y a pas que l'État.
C'est... Non. C'est immoral. C'est quelque chose qui est immoral. En France, non. En France, non, mais aux États-Unis, vous avez des sénateurs qui sont mormons. Les sénateurs sont...
Mais il y avait un candidat aux élections présidentielles.
Oui, mais il n'a pas fait long feu. Hein. Oui. Une autre question, puis...
Oui. Plaque
une plaque d'or.
Quand on voit le livre de Mormon, c'est quand même assez épais. Enfin, c'est des...
Oui.
Donc, il devrait y avoir une montagne de plaques.
Très juste.
Où sont ces plaques?
Ah, mais ça, c'est encore le passe-passe de... Le tour de passe de Smith. Alors on a demandé aux missionnaires, s'il reste une plaque, une portion, vous pourriez nous la montrer. Dis donc là, j'ai reparti avec. Pas de peau, vous voyez.
Dans leur mythologie, Moura, c'est où là? Vous avez parlé de la bataille à Moura, c'est ça?
Donc, la colline de Cumora. Elle existe, elle est en état de New York. Les mormons ont acheté toute la colline, et ils ont marqué donc Cumora, mais on n'a pas retrouvé un bouclier, pas un couteau, rien. Et quand on dit ça aux missionnaires, les missionnaires ne savent pas quoi répondre. Ils disent oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, vous voyez.
C'est quoi
un mormon digne? C'est celui qui donne sa dîme. Alors, ça pourra donner peut-être une idée à Pierre, je ne sais pas. C'est que les mormons, il n'y a pas de collecte. Il n'y a pas de collecte. C'est beaucoup plus simple que ça. Chaque mormon présente sa feuille de paye. Et la dîme est prélevée automatiquement chaque mois. Donc vous n'avez pas la monnaie à chercher. Vous n'avez pas à fouiller les poches pour le billet. C'est pratique, ça peut donner une idée à Pierre, ça. Moi, je trouve que c'est pratique. Bon. Maintenant, le mormon digne, non seulement donne sa dîme, mais donne encore 10% en offrande pour l'impression du livre de Mormon, pour le fonds missionnaire, pour la construction du temple. Les mormons donnent 20% de leurs revenus. Et tous les mormons ne sont pas riches. Nous, on croit que tous les mormons sont riches. Il y en a. Mais ce n'est pas tous des millionnaires. Donc, là encore, on est interpellé. Je me dis, Seigneur, 20%, mais bon, on n'y arriverait sans doute pas à les donner, peut-être pas, mais eux le font. Est-ce que nous, on ne peut pas faire un peu plus? Là encore une question. Encore une question. Oui, Pierre.
Comment les déstabiliser avant-il
Déstabiliser le mormon.
Oui.
Alors, citez le passage de Galates, Si un ange venait du ciel pour annoncer un autre évangile, ils ne le connaissent pas. Hein. Les mormons, curieux, ne connaissent pas ce verset. Oh, il y est. Ah non, le livre de Mormon, non. Ils n'ont pas... Non, ils ont le second en français. Et en anglais, ils ont King James. Mais, comment dirais-je, pour eux, la Bible, elle ne fait pas autorité, vous savez. Non, la Bible, ils s'en servent pour appâter les chrétiens, je pense. Second en français, oui. Oui, second. Mais ils disent que... Alors, une autre question que vous posez aux Mormons, ils disent que la Bible n'est pas fiable parce qu'il manque des chapitres et des versets. Alors, demandez-leur quel chapitre et quel verset. Ils ne peuvent pas répondre. Quand on dit qu'il manque des chapitres, il faut pouvoir le prouver. Donc les Mormons déstabilisaient le passage de Galates. Ensuite, aussi comme pour les témoins de Jéhovah, le salut. Parce que le Mormon n'a pas l'assurance du salut. Il croit que Jésus est mort sur la croix, que son sang a été répandu pour la rémission de nos péchés, mais ils n'ont pas l'assurance du salut. Et comme les témoins de Jéhovah, ils sont obligés de produire. Et le leitmotiv que les Mormons ont, c'est être sauvé, peut-être, après avoir tout fait. Il faut que le Mormon accomplisse le maximum de bonnes œuvres, et peut-être, après, il sera sauvé. Il ne sait pas. Donc,
être sauvé, c'est avoir beaucoup d'enfants dans l'éternité.
Oui,
c'est ça.
Oui, c'est ça. Pour eux, c'est ça. Mais pour nous, c'est autre chose. Hein. Non,
ils ne sont pas sûrs de pouvoir arriver des...
Non, ils n'ont pas l'assurance. Ils espèrent. Et beaucoup de bonnes œuvres chez les Mormons. Ils font beaucoup de bonnes œuvres. C'est le salut par les œuvres. Alors, il est déjà... Alors, on enchaîne directement avec la dernière partie. Vous voulez faire un petit break? 10 minutes? On y va? Deuxième partie. OK. Bon, vous n'avez pas d'autres questions?
Est-ce qu'il y a des Mormons en Chine?
Il y en a partout. Oui.
La même question, on avait témoigné au
cours. Oui. Oui, il y en a. Il y en a tout à fait d'une manière souterraine. Ils travaillent d'une manière souterraine, mais il y en a. Sam ?
Toutes ces histoires un peu comme ça, fantastiques, ça nous fait sourire, mais quelle est leur pratique communautaire ? Comment vit une église mormone, une communauté mormone ? Parce que ce qui est déconcertant quand on rencontre les missionnaires, etc., d'une part leur culot, des petites jeunes filles de 20 ans qui interpellent le pasteur de 30 ans de ministère,
oui, oui.
S'il était un gamin qui n'avait rien compris.
Oui, tout à fait.
Rien vu de la vie. Et puis qui vous parle de la pratique des dons spirituels et tout ça.
Alors, comme pour les témoins de Jéhovah, les réunions sont très... c'est lassant, quoi. Alors, les témoins, les mormons, si on ne retrouve plus avec les témoins, les mormons, avec les mormons, le dimanche est très chargé. Ils ont 3 réunions le dimanche matin. Ils ont l'école du dimanche à 9h, ils ont l'école pour la prêtrise à 10h, et ils ont leur culte, entre guillemets, à 11h. Donc, l'école du dimanche, c'est l'enseignement, comme on a un petit peu, mais toujours axé sur le livre de Mormon, toujours sur le fait qu'il faut aller au temple. Je suis abonné à l'une de leurs revues, et toujours sur chaque numéro, dans chaque numéro, il faut aller au temple, il faut mettre en pratique les ordonnances du temple, etc. Donc, 9h, l'école du dimanche, 10h, l'école de la prêtrise, parce que les Mormons pensent que Joseph Smith a reçu les clés de la prêtrise. C'est-à-dire que ils ont remis à l'avant la prêtrise d'Aaron et de Melchisédek. Donc, à 12 ans, les jeunes mormons reçoivent la prêtrise de Melchisédek, et à 18 ans, ils reçoivent la prêtrise d'Aaron. Et cette prêtrise leur donne une grande autorité qui leur permet de défier même les pasteurs. Je réponds à ta question. Pour eux, ils sont investis de cette prêtrise divine, et ils y tiennent terriblement. Ils portent le garment qui leur a été donné dans le temple. Et donc la communauté, ensuite ils ont des cours d'anglais, ils donnent des cours d'anglais à la chapelle, des cours gratuits qui leur permettent d'attirer les gens. Et en semaine, ils n'ont pas beaucoup de réunions. Tout a été centralisé sur le dimanche. Mais je vous assure, lorsqu'il nous arrive d'aller rarement, mais on y va pour se tenir au courant, à 11h, il n'y a rien dans ces réunions, il n'y a rien. Un ou deux chants qui manque d'énergie, et puis vous avez un mormon qui vient donner un témoignage, un missionnaire ou un membre, et ensuite une courte méditation de 10 minutes axée sur le livre de Mormon, et puis c'est fini. Il y a la communion est prise une fois par mois. Et alors, curieusement, ils prennent le pain et l'eau. Pas de vin. Parce que Smith a dit aux missionnaires de ne pas boire de vin. Donc, ils prennent de l'eau. Donc, le symbole est nul, quoi. Ça ressemble à rien, de l'eau. Une fois par mois. Et c'est tout. Je veux dire, dans ces réunions, il n'y a rien. Il n'y a pas de prière toute faite. Il n'y a pas de louange. On se demande comment des gens peuvent accepter tout cela. Et la réponse, c'est qu'il y a un esprit d'aveuglement. Il y a deux astronautes qui sont mormons. Vous avez des sénateurs, des chirurgiens, des astronomes. Ils touchent une partie de la société qui est quand même élevée. Chez les témoins, c'est moins élevé. Mais chez les mormons, ils visent haut, hein. Ils arrivent vraiment à voir, disons, le dessus du panier, quoi. J'ai répondu à ta question, Sam ? Pas tout à fait.
Non, disons, ce qui m'intrigue, c'est le discours sur le Saint-Esprit qui ressemble beaucoup au nôtre, avec don spirituel et tout ça.
Ah, je réponds à ta question. Moi, ça m'a turlupiné, cette histoire-là. Alors, je leur ai dit, mais alors, vous croyez au Saint-Esprit et au don spirituel, le don des langues, le don de discernement, etc. Alors, les missionnaires, voilà ce qu'ils répondent. Nous croyons que Dieu nous aide, avant que nous partions sur le champ missionnaire, à apprendre la langue du pays. Et ils parlent plusieurs langues comme ça, parce qu'ils ont appris l'italien, le français ou le chinois. Pour eux, c'est un don. Donc ça n'a rien à voir avec ce que dit la Bible. Vous voyez, rien à voir. Vous savez, ils sont un peu enfants, les mormons. Hein. Ils sont un peu enfants. Les dons spirituels, ils n'en ont pas. Il n'y a pas de dons spirituels. Et non, l'eau pour la communion. Maintenant, les communautés sont très fortes. Vous allez dans la vallée du Grand Lac Salé. Partout, vous voyagez, vous voyez des silos à blé avec Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ils ramassent beaucoup de nourriture dans les fermes et tout pour les pauvres. Ils s'entraident beaucoup. Les mormons s'entraident beaucoup.
Et par rapport à la guérison, que ce soit les témoins de Jéhovah, les mormons, ils n'expérimentent pas.
Non. Les témoins de Jéhovah prennent les mormons pour des fous. Doug Smith et puis les visions, tout ça. Non, ils ne se supportent pas tous les deux, non, non.
Je parle de la guérison physique dans les deux mouvements.
Non. Non, non. Bonne question. Non, on n'y croit pas, non. Mais c'est dur à avaler l'histoire de Smith. Hein. C'est quand même dur. Hein. C'est dur à avaler. Et vous savez, il le porte vraiment comme...
S'il y avait les deux.
Israël. Ah, mais écoutez, ça, c'est encore une histoire. J'ai une vidéo des Mormons, je n'ai pas le temps de vous la passer. À Jérusalem. C'est en dessous, je crois que c'est en dessous du Mont des Oliviers. Moi, je ne suis jamais allé là-bas. Mais d'après les vidéos... Le bâtiment. Ils ont une université à Jérusalem. Oui. Et mon fils qui est allé là-bas a vu Mormon Temple. Vous vous rendez compte comment il put, alors que les évangéliques sont persécutés, avoir pas un temple, mais un grand bâtiment et une université. Là aussi, il y a l'argent et la franc-maçonnerie. Écoute, il faut voir le bâtiment, c'est incroyable. Et ils arrivent, donc ils font moins de bruit que les témoins de Jéhovah, mais ils sont très redoutables au niveau de l'efficacité. Très redoutables. On passe à la deuxième vidéo. Alors là, je vous demanderai d'être indulgent, parce que nous avons filmé ça avec un petit caméscope. Le film va être bientôt prêt, ça a été fait par un professionnel, l'autre vidéo. Donc nous avons fait ce que nous avons pu. Et si vous avez aussi des questions après cette vidéo, donc ça a été filmé il y a 3 ans lors du voyage qui a été fait là-bas. Donc notez également si vous avez des questions. Et nous pourrons comme cela vers 1h15, comme promis, nous essayons de tenir un peu nos promesses. C'est au début de 1846 que des milliers de mormons, sous la conduite de Brigham Young, successeur de Joseph Smith, se mirent en marche. Pendant les mois que dura cette migration, des centaines moururent de froid ou de faim. Cette sécurité qu'ils recherchaient, ils allaient la trouver dans la vallée du Grand Lac Salé. Celle-ci, depuis, s'est énormément peuplée. Elle leur avait permis de fuir la persécution due en grande partie à la pratique de la polygamie. Ils ont transformé ce désert en une magnifique ville, Salt Lake City, le Visitors Center. Il est situé à l'entrée de Temple Square, à gauche, le temple construit par les pionniers. Le joli bâtiment de l'Assembly Hall où se tiennent des concerts. Les Mormons aiment beaucoup la musique. Aussi ont-ils également construit le tabernacle d'une capacité de 10 000 places. Les assemblées générales de l'église s'y déroulent également. L'hôtel Utah, propriété de l'église, c'est là que loge, probablement au dernier étage, le président actuel de l'église, Gordon B. Hinckley. Il est aussi le voyant, le prophète, celui qui conduit le peuple des saints des derniers jours. Un couloir souterrain a été aménagé, ce qui lui permet d'accéder directement depuis ses appartements au tabernacle. La neige est de nouveau tombée durant la nuit. Au fond, à gauche, le siège de la municipalité de l'Utah. Il a été construit sur le modèle de celui de Washington. Le bâtiment où sont gérés les biens de l'Église. Celle-ci est l'organisation religieuse la plus riche après le Vatican. 3 millions de dollars par jour rentrent dans les caisses. En musique de fond, le chœur mormon connu dans le monde entier. Le monument érigé en l'honneur des pionniers et de Brigham Young, leur leader et prophète. Lorsqu'ils arrivèrent dans cette immense vallée, il y avait, paraît-il, un ou deux arbres seulement. Ils travaillèrent très dur pour construire leur ville. Brigham Young désigne l'endroit où elle devait être construite en prononçant la fameuse phrase « C'est ici le lieu ». Sa maison, très vaste, il eut 26 femmes et beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, les Mormons ne pratiquent plus la polygamie sous peine d'exclusion de l'Église. Le temple de Salt Lake, c'est un magnifique édifice de granit construit par les pionniers. Il fallut 40 ans pour le construire. Sur la façade, on peut lire « Maison du Seigneur ». Le tout dernier bâtiment construit en 2 ans. D'une capacité de 22 000 places, il y a une autre salle adjacente de 9 000 places. Chaque dimanche, un concert gratuit est donné par le chœur mormon, toujours dans le tabernacle, ce qui attire beaucoup de monde. L'intérieur du tabernacle, nous l'avons déjà dit, d'une capacité de 10 000 places. Vous apercevez les orgues composés de 8 000 tuyaux. Il est le plus grand au monde. L'acoustique est remarquable. Jugez-en vous-même. Lors de la visite, une jeune fille se tient au fond du bâtiment. Elle laisse tomber une aiguille. On l'entend lorsqu'elle touche le sol. Nous retournons au Visitor Center, un stand parmi beaucoup d'autres.
Les hôtesses qui
l'inscription mentionne le Livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. On voit ici le texte de ce livre gravé sur des plaques d'or, les plaques que Joseph Smith trouvera des siècles plus tard et qu'il traduira par le pouvoir de Dieu, a-t-il dit, ce qui donnera le Livre de Mormon. Dans le hall d'entrée, une magnifique fresque sur la création, ainsi que la statue en marbre représentant le Christ. Elle est l'œuvre d'un artiste danois mormon. En réalité, ce n'est pas le Christ qui accueille les visiteurs, car pour les mormons, le prophète Joseph Smith est beaucoup plus important. Ces tableaux représentent Joseph Smith lisant la Bible, et puis on le voit dans le bosquet sacré où le père et le fils lui seraient apparus pour lui dire « Tu fonderas la seule et véritable église sur la terre, l'église mormone. » Comme les autres prophètes de la Bible, il fut appelé par Dieu pour une mission spéciale, restaurer l'évangile éternel.
Voilà la première présidence.
C'est ici qu'a commencé le miracle de cette grande œuvre qui s'est répandue sur la terre. La première vision a eu lieu ici. C'est là que Dieu, le Père éternel, est apparu avec son Fils bien-aimé, Jésus-Christ.
Voilà les 12 apôtres qui entourent le prophète actuel.
Écoute-le.
Les Mormons disent qu'ils sont la véritable
Église. Encore des tableaux très beaux, peints par des artistes mormons. Ils représentent non pas des scènes de la Bible, mais du livre de Mormon. Moroni, nous le voyons occupé à enterrer les plaques d'or que Joseph Smith trouvera des siècles plus tard. Ces plaques contenaient les annales de son peuple. Pour construire le temple, les ouvriers allèrent chercher les blocs de granit dans la montagne. Ce fut un travail colossal. Avec les moyens de l'époque, on comprend que cela a pris une quarantaine d'années. Pour les saints des derniers jours, le temple est très important. Seuls les Mormons dignes peuvent y entrer. On y pratique les mariages pour l'éternité, le baptême pour les morts et d'autres rites secrets. Dans le monde des esprits, chacun est libre de recevoir ou de rejeter le message de Joseph Smith. Le rejeter entraînerait les plus grandes conséquences. Les conjoints qui reçoivent la bénédiction sont unis pour l'éternité. Parce que l'homme peut devenir un dieu et la femme une déesse, la vie de famille est très importante pour les Mormons. J'ai eu le temps de filmer deux jeunes qui vont être unis dans le temple. Certaines cérémonies sont marquées par des manifestations spirites, audibles ou visibles. Le temple de San Diego, Californie. La statue de l'ange Moroni, recouverte d'or pur, se trouve au sommet de la flèche de chaque édifice. Il sonne de la trompette pour proclamer l'évangile éternel, non pas celui qui est contenu dans la Bible, mais celui qui
à droite, vous avez un signe maçonnique. À droite.
Il n'était pas 6 heures du matin, et pourtant, des centaines de Mormons, malgré le froid, se rendaient au temple pour y accomplir les ordonnances sacrées. Jugez en passant le zèle pour l'erreur, pour le diable, par le nombre de véhicules qui stationnent sur le parking. C'est parce que l'Église grandit que de nouveaux temples sont continuellement construits et nécessaires à l'activité de l'Église des Saints des derniers jours. Chaque temple a le même type de baptistère. Il est utilisé pour le baptême par procuration en faveur des morts. Les bœufs représentent les 12 tribus d'Israël.
Voilà, j'interview avec mon petit anglais scolaire. J'interview cette dame, une mormone, qui à 6 heures du matin, avant d'aller au travail, va pratiquer les ordonnances du temple, se faire baptiser pour les morts. Alors je lui demande, mais le temple est ouvert quand? Alors elle me donne les heures d'ouverture, les horaires également. Et je lui demande, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous venez là? Et alors elle dit qu'elle pratique les ordonnances pour sa famille, pour ses amis et pour ses connaissances également. Quel zèle, 6 heures du matin.
Dans cette immense vallée, il y a tout de même plusieurs églises évangéliques, dont 5 assemblées de Dieu. Me voici annonçant la parole du Seigneur. Le frère à mes côtés, Timothée, est un ex-mormon, très engagé dans l'œuvre de Dieu. Il accomplit un ministère similaire au mien. Des mormons sont gagnés à Christ, alléluia. Cette immense vallée du lac Salé est un véritable champ de mission au cœur de l'Amérique.
Là, nous avons filmé Stéphanie. Nous pensons que dans quelques temps, nous allons pouvoir distribuer sa vidéo. Stéphanie est de la 4e génération. Les mormons. D'ailleurs, toute sa famille était mormone. Et donc, elle a été élevée dans l'Église. Elle connaissait que l'Église. Et nous lui demandons, mais Stéphanie, est-ce que vous avez eu des doutes concernant Smith? Et alors, elle répond, oui, à partir de 12 ans, j'ai commencé à me poser des questions sur la moralité, sur ce qui était Joseph Smith réellement. Et ces doutes l'ont conduit à être sauvé avec son mari Tom. Et elle conclut en disant, j'avais des doutes sur le prophète, mais depuis que je connais le Seigneur, je n'ai jamais douté de lui. Elle est remplie de joie. Hein? Elle rayonne, on voit qu'elle rayonne. J'aimerais vous donner quelques points de doctrine concernant les Mormons. Vous avez déjà bien compris, bien sûr. Mais nous aimerions, avant de conclure, mentionner ce que les Mormons, ce en quoi les Mormons croient. Parce qu'il est intéressant de savoir, n'est-ce pas, que les Mormons sont non seulement dans l'erreur, mais également, ils croient dans beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait, pas du tout en accord avec la parole de Dieu. Mais avant d'arriver à la doctrine, est-ce que vous avez une question ou deux que vous... Oui. Ah, ben non, jamais, c'est possible. Hein. C'est les Mormons qui vous ont dit ça.
Oui, j'avais entendu dire ça, c'est pour ça que je voulais savoir si vraiment c'était...
Ah, là, je... Avec... Ils m'en ont jamais parlé, mais peut-être. Oui, ça, je ne peux pas répondre. C'est possible. Ils croient tellement de choses que... C'est vrai, c'est difficile. Mais la question est bonne, si j'avais pu répondre, mais je n'ai jamais entendu parler de cela. Eh bien, elle va se faire baptiser pour les morts.
Mais elle le fait plusieurs fois.
Ah oui, plusieurs fois. Les missionnaires mormons, bénévolement, le font plusieurs fois par semaine. Et elle, peut-être pas tous les matins, mais parce que ça compte pour le salut. C'est toujours des œuvres, des œuvres, des œuvres en faveur de ceux qui sont perdus. Donc, oui, plusieurs fois, ils le font. Oui, la même personne se fait baptiser pour plusieurs personnes vivantes ou décédées, et ils prennent les noms dans la caverne de granit dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y a près de 3 milliards de noms sur des microfilms. Donc c'est énorme, ça leur coûte très très cher, parce que dans cette caverne, tout est climatisé, il y a des employés, et ils se vantent en disant que cette caverne pourrait résister à une bombe atomique. Elle est carrément sous la montagne, bien protégée, climatisée, et nous n'avons pas pu aller jusqu'à la caverne, nous aurions voulu filmer là-bas, mais bien qu'étant au mois d'avril, il y a beaucoup de neige qui était tombée, et on n'a pas pu passer. Mais retenons le zèle qu'ils ont pour ces choses-là, et nous devrions, oui, redoubler d'efforts, que Dieu nous aide dans ce sens.
Dans cette famille, il y a dans le cœur de Mormon, combien ils sont nombreux?
Où ça?
Dans le cœur du Mormon, chanter la chanson.
Dans le cœur, ils sont 400. Ah, le cœur est très beau, hein. Ça, je veux pas faire de la publicité pour le cœur mormon. Oui. Il y a beaucoup de... Vous parlez du chant, là? Ah non, il est très connu aux États-Unis. Ah, mais les mormons chantent des cantiques de partout, hein. Nous faisons tous partie de la Grande Babylone, mais ils utilisent... Ah oui, il y a des cantiques... Ils en ont qui parlent du sacrifice des pionniers. Ah, ils ont des chants, mais il y a un esprit de séduction là-dedans. Hein. Le cœur est magnifique. Hein. D'ailleurs, lorsque les Jeux Olympiques avaient commencé, ils sont tenus à Salt Lake, eh bien, c'est le cœur mormon qui a commencé à chanter avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Donc, vous voyez, ils sont très appréciés et le cœur mormon voyage dans le monde entier. C'est 400 qui travaillent bénévolement, qui donnent du temps bénévolement.
Mais les orques, c'est magnifique. Hein. 8 000 orques du monde, c'est ça ? 8 000 orques.
L'orgue est magnifique. Le plus grand au monde. Vous écoutez cet orgue, c'est incroyable. Je vous dis, chez eux, vous avez vu les temples comme ils sont beaux ? Les temples, la musique, tout est fait pour séduire les gens. Derrière, il y a vraiment un esprit de séduction. Vraiment. Alors, je vais donc vous parler un petit peu rapidement, vous restez au temps, de la doctrine mormone. Alors, est-ce que... Écoutez bien l'article de foi, des mormons, et vous allez voir que là aussi, il y a un esprit de séduction. Nous croyons en Dieu le Père éternel, et en son Fils Jésus-Christ, et au Saint-Esprit. Nous croyons que les hommes seront punis pour leurs propres péchés et non pour la transgression d'Adam. Là, on n'est pas d'accord. Nous croyons que grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tout le genre humain peut être sauvé en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. Comprenez, en obéissant à l'enseignement de l'Église mormone. Obéir aux ordonnances de l'Évangile, l'Évangile restauré. Nous croyons que les premiers disciples et ordonnances de l'Évangile sont premièrement
la foi au Seigneur Jésus-Christ, deuxièmement, le repentir, troisièmement, le baptême par immersion pour la rémission de nos péchés, quatrièmement, l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. Nous croyons que l'on doit être appelé de Dieu par prophétie et par l'imposition des mains de ceux qui détiennent l'autorité, Melchisédek et Aaron, autorité qui est donnée aux jeunes 8 ans, 12 ans et 18 ans, pour prêcher l'Évangile et en administrer les ordonnances. Nous croyons à la même organisation que celle qui existait dans l'Église primitive, pasteur, docteur, évangéliste. Nous croyons au don des langues, de prophétie, de révélation, de vision, de guérison, d'interprétation des langues. Et là, nous en avons parlé longuement avec les missionnaires. L'interprétation des langues, c'est quelqu'un qui traduit une langue qu'il ne connaît pas, pour quelqu'un qui ne connaît pas. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu dans la mesure où elle est traduite correctement. Et nous croyons aussi que le livre de Mormon est la parole de Dieu. Nous croyons tout ce que Dieu a révélé et tout ce qu'il révèle maintenant. Et nous croyons qu'il révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu. Nous croyons au rassemblement littéral d'Israël et au rétablissement des 10 tribus. Nous croyons que Sion, la Nouvelle Jérusalem, tenez-vous bien, sera rebâtie sur le continent américain. Que le Christ régnera en personne sur la terre et que la terre sera renouvelée et recevra sa gloire paradisiaque. Nous affirmons avoir le droit d'adorer le Dieu Tout-Puissant selon les inspirations de notre conscience et reconnaissons le même droit à tous les hommes. Ils adorent comme ils veulent, où ils veulent et ce qu'ils veulent. Adorer Dieu, mais on adore ce qu'on veut. Nous croyons que nous devons nous soumettre au roi, au président, au gouverneur, au magistrat et que nous devons respecter, honorer et défendre la loi. Nous croyons que nous devons être honnêtes, fidèles, chastes, bienveillants et vertueux et que nous devons faire du bien à tous les hommes. En fait, nous pouvons dire que nous suivons l'exhortation de Paul, nous croyons tout, nous espérons tout, et nous avons supporté beaucoup, et nous devons être capables de supporter encore beaucoup d'autres choses. Nous recherchons tout ce qui est vertueux, aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou en est digne de louange. Voilà, donc celui qui ne connaît pas la Bible, il tombe dans le panneau. Il se dit, mais c'est bien, ça, ils font du bien. Ils croient dans Dieu le Père, ils croient dans le Fils, ils croient dans le Saint-Esprit. Et à l'apparence, c'est bien. Mais quand vous touchez un petit peu, on voit ce qui se passe au niveau de la doctrine et des phénomènes diaboliques. Le frère Timothée, que vous avez vu traduire là, au cours d'une réunion dans une chapelle évangélique, il était mormon, il a été missionnaire mormon. Et il disait qu'un jour, il a voulu mettre en pratique ce que la prêtrise de Melchisédek lui permettait, c'est-à-dire de prier pour les malades. Donc il a posé la main sur une dame, il était sincère, il a voulu prier le Seigneur pour que Dieu guérisse cette femme, rien ne s'est passé, mais il a eu la peur de sa vie. Il me disait à un moment donné, quand j'ai invoqué la prêtrise, il y a une puissance qui est venue par en haut, de la tête là, jusqu'aux pieds, j'ai eu une frayeur terrible. Bien qu'étant jeune mormon, il avait discerné que cette puissance ne venait pas de Dieu. Il a été ébranlé par cela et il a commencé à réfléchir après. Donc il y a vraiment du trafic avec les puissances occultes, ça c'est clair. Et en voyant ces beaux jeunes gens, on ne peut pas imaginer. Vous les voyez bien mis, sincères, souriants, mais derrière la façade du mormonisme, il y a vraiment le serpent ancien et le diable qui travaillent. Alors un dernier sujet. C'est le sujet de prière. Priez, chers amis, parce que nous avons appris que les Mormons ont un projet de construction de temples. Il n'y en a pas en France. Et que Dieu fasse que ça ne se fasse pas. Ils ont un projet de construire un temple du côté de Marne-la-Vallée. Donc, vous voyez, très bien situé, là, pas très loin de Disneyland, là. Donc, il y a énormément de gens qui passent. Là, c'est un peu le carrefour de l'Europe, si on peut dire. Et le projet, donc, c'est 10 hectares, avec la construction du temple, coûterait, tenez-vous bien, 410 millions d'euros. 410 millions d'euros. Donc l'argent n'est pas un problème pour les Mormons. Nous avons téléphoné à la mairie de la commune, nous avons trouvé le nom de la commune, et effectivement, il y a des négociations qui étaient en cours. Donc nous avons besoin de prier. Parce qu'on n'a pas besoin de ce centre occulte dans notre pays. On n'en a vraiment pas besoin. Donc, il y en a un qui va être construit à Rome. Par leur revue, j'ai appris qu'ils avaient un temple en construction à Rome. Il y en a deux en Angleterre. Il y en a un à Zollikofen, près de Berne, en Suisse. Mais en France, jusqu'à présent, nous avons été épargnés. Il y en a deux en Espagne. Prions pour que le Seigneur s'oppose à cela. Nous devons prier de tout notre cœur. Voilà, je crois qu'il nous reste encore quelques minutes. On veut respecter ce qui a été dit. On ne veut pas que vous rentriez trop tard. Est-ce que vous prierez pour le travail de rencontre et dialogue? On a besoin de vous, hein. On a besoin de vos prières. Ce n'est pas toujours facile, mais le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous fait grâce et nous pouvons ainsi faire du travail pour sa gloire. Je rappelle qu'il y a des brochures, vous avez vu, il y a un choix pour les Mormons, pour les témoins de Jéhovah. Vous avez de la bonne littérature. Et ceux qui désirent recevoir le livre qui va apparaître dans un mois et demi, inscrivez clairement vos noms, prénoms, laissez le téléphone, et dans un mois et demi, le livre sur les témoins sera disponible pour seulement 15 €, 350 pages. Et après, deux mois après, il sera vendu hors souscription, c'est-à-dire 18 €. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui.
Juste un témoignage personnel. André, une seconde, s'il te plaît. Je voulais juste partager un témoignage personnel pour dire le caractère insidieux de ces sectes. Avant de devenir chrétien, j'étais étudiant à Marseille et j'avais été invité par des jeunes gens à venir apprendre l'anglais. Et en fait, il s'agissait de missionnaires mormons qui étaient très, très doués, qui étaient très sympathiques. On avait des réunions pour apprendre l'anglais. Et puis à l'occasion de la fête de Thanksgiving, ils m'ont dit « Tiens, tu devrais venir voir, on prépare une fête à l'église de Marseille. » Et donc ils nous avaient emmenés, les jeunes qui étaient là. Et Dieu merci, je n'ai pas été plus attiré par ce qu'ils montraient. Mais avant que j'ai reçu un témoignage évangélique en France, j'ai été interpellé par des Mormons. Je travaillais dans une compagnie aux États-Unis où ils avaient le droit de prendre 2 ans de disponibilité pour leur témoignage, pour les jeunes. Moi, en tant qu'évangélique, quand j'ai parlé de partir pour faire des études à l'école biblique, on m'a pas proposé. Donc il y a une grande influence, le fait que le gouvernement français, il y a une dizaine d'années, ait ouvert toutes les archives publiques. Et je crois que la leçon, c'est ne vous fiez pas aux apparences. J'ai trop de jeunes qui me disent, tiens, j'ai rencontré des jeunes. C'est pareil, c'est la même chose, ils sont vachement sympas. Et ils disaient la même chose, et c'était juste, ils avaient plein de zèle. Encore une fois, Satan se déguise en ange de lumière. Et je bénis le Seigneur pour le ministère de notre frère. Parce que même parmi les jeunes qui viennent dans les églises, il y en a qui se disent « mais ils sont sympas, ils sont… » Voyez au fond des choses, demandez la direction divine pour avoir ce discernement, discerner les esprits. Et encore une fois, quand je vois ces jeunes, mon cœur c'est plus de la colère que de l'amour, et je sais que c'est mal. C'est pas en étant en colère contre eux qu'on va les toucher, c'est en les aimant, en priant, en demandant à Dieu de nous donner des fois la parole, le sourire, la réponse qui va les ébranler et leur permettre de voir que ce qu'ils font est complètement à côté de la plaque. On remercie vraiment Marcel de ce séminaire. On s'aperçoit qu'en fait, on a gratté que la surface, mais il y a déjà des indications et on va peut-être prier pour la suite. Seigneur, on te remercie pour ton Esprit Saint qui nous dirige dans la vérité. On te demande vraiment de donner à tes enfants le discernement. On te demande de protéger ceux qui ne sont pas encore tombés dans ces sectes, qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Et comme l'a mentionné plusieurs fois notre frère Marcel, Seigneur, tu nous donnes, nous te demandons de nous donner un zèle d'amour pour aller parler de toi, pour témoigner autour de nous, pour prier pour nos voisins, nos parents, nos amis. Seigneur, donne-nous de faire plus pour la vérité que eux font pour le mensonge. Et nous te demandons pardon pour notre manque de zèle ou de compassion pour ceux qui nous entourent. Je te prie de bénir Marcel et ce ministère, de lui donner beaucoup de fruits, de l'encourager. On imagine qu'il est la cible de ces puissances qui animent ces sectes, Seigneur, mais celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. On prie vraiment, Seigneur, que tu utilises notre frère, son ministère, que tu nous utilises aussi pour conduire le plus grand nombre à la repentance et à la vie éternelle, Seigneur. Affermis ton peuple, dans le nom de Jésus, nous le prions. Amen. Amen. Merci, Marcel. Merci à tous.